OK, on va terminer ce soir notre dernière partie de la leçon où on parle des remèdes. Alors, on les avait regardés brièvement au cours des 2 dernières semaines. Cette semaine, on va terminer cette leçon-là. Alors, on avait parlé que le premier remède, c'était de corriger son style de vie. On avait donné un petit peu plus de détails là-dessus. Le deuxième remède, on avait vu que c'était corriger ses fausses pensées. Alors, il faut que le chrétien ou la personne qui traverse un moment de dépression examine les grandes parties de sa vie pour examiner, voir s'il n'y a pas des pensées, des patterns, des fausses pensées qui sont présentes dans son esprit, qui demeurent, pour chercher avec l'aide un pasteur ou d'un conseiller ou même d'un membre de la famille pour essayer de corriger ces choses-là. On avait regardé que ça se trouvait à différents niveaux, la situation générale dans ta vie, tes sentiments, tes pensées et l'analyse et le comportement, de regarder les raisons qui te poussent à faire cela, de prendre la décision de changer et de t'établir un plan et d'essayer avec quelqu'un de compétent qui t'aime pour essayer de sortir de cela. On avait vu que dans la troisième remède, tu as bien entendu, si la cause est de nature physique, ben, avec l'aide des médecins, de voir à ce que si c'est un débalancement de la chimie du cerveau qui est en cause, ben, que ça soit corrigé. Alors on avait regardé ça et on avait regardé. Le quatrième remède, c'est à vraiment corriger notre vie spirituelle. Alors, corriger ta vie spirituelle. Il y a des conséquences qui viennent avec la dépression. Bien, souvent, on le sait, des personnes dépressives, en général, ne s'intéressent plus à grand-chose. Souvent, ils ne viennent plus au culte, lisent plus, prient plus. Alors tout ça, là, ça finit par avoir des conséquences extrêmement importantes dans la vie de la personne, et non seulement dans la vie de la personne, mais dans la vie de son entourage aussi. Alors corriger les conséquences spirituelles, il faut qu'ils soient corrigés. Alors on avait expliqué que la dépression chez les chrétiens peut être causée par des facteurs qui sont non spirituels. Cependant, il y a des conséquences spirituelles à toute dépression. On le sait. Et il existe un nombre d'étapes que les chrétiens doivent franchir pour renverser les conséquences, au moins de quelques-unes de ces conséquences-là. Martin Lloyd-Jones, dans son livre, qui s'appelle La dépression spirituelle, ses causes et ses remèdes, lui, il touche vraiment plus spécifiquement les causes de nature spirituelle de la dépression. Alors, Martin Lloyd-Jones, sur cet aspect-là, il ne touche pas beaucoup les causes médicales, mais sur l'aspect spirituel, il développe pas mal ces idées-là. Alors, on va faire quelques observations pratiques pour examiner les conséquences spirituelles de la dépression. Une des premières choses que la personne doit faire, c'est accepter que le fait d'être déprimé ne soit pas automatiquement et directement lié à la présence du péché dans sa vie. On l'avait vu que souvent, c'est un préjugé qui est tenace, qui a la couenne dure. Je l'ai entendu souvent au cours de ma vie chrétienne, qu'il y a des personnes qui croient cela, qu'ils font automatiquement un lien entre quelqu'un qui est dépressif et une cause. Ils disent, c'est parce que tu vis dans le péché. Il y a un péché qui est caché, que tu fais, que tu ne veux pas avouer, qui est la cause de ta dépression. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a plusieurs personnages de la Bible, qu'on pourrait prendre des exemples dans la Bible, et aussi plusieurs grandes personnalités chrétiennes à travers l'histoire qui ont connu des moments de dépression, et non pas les moindres. Martin Luther a connu des moments importants de dépression dans sa vie. Charles Spurgeon a connu des moments importants de dépression dans sa vie. Et là, on pourrait allonger la liste. C'est pas, la seule chose qu'on veut dire, c'est qu'il y a des personnages dans la Bible qui ont connu des moments de dépression. Il y a des personnages au cours de l'histoire de l'Église dont on est convaincu par les fruits qu'ils portaient, qu'ils étaient des véritables chrétiens. Alors, quelque part, on pourrait allonger la liste, là, mais il suffit de mentionner une couple de noms comme ça, comme Martin Luther, Charles Spurgeon. Autre observation, il faut que la personne essaie de comprendre que la perte de sentiments spirituels exaltés est noble. Autrement dit, quand une personne vit dans le Seigneur, proche du Seigneur, avec une vie de prière, avec une vie assez intense de lecture de la parole, de communion fraternelle avec ses frères et ses sœurs, écoute des sermons et tout cela, ça nous met dans un état spirituel qu'on pourrait dire en santé. Mais à partir du moment où que tu abandonnes ou que tu négliges toutes ces choses-là, bien entendu, ta vie spirituelle, elle pique du nez. Puis c'est automatique. Alors, que les sentiments que tu avais avant, c'est pas à cause que tu les as plus ou que tu ne les vis plus que tu n'es pas un chrétien pour autant. Ça, il faut vraiment que la personne comprenne ça. Alors, le fait qu'on a perdu du zèle ou on ne sent plus qu'on est aussi proche du Seigneur qu'avant, ce n'est pas un signe que tu n'es pas chrétien. C'est un signe que tu t'es affaibli. Un peu comme une personne physique, si on arrête de manger, à quelque part, on va s'affaiblir. Dans la parole, il ne faut pas oublier que le Seigneur, il compare sa parole à du pain. Quelque part, si quelqu'un arrête de manger, il va s'affaiblir, ça c'est sûr. Alors, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Troisième observation, c'est qu'il faut que la personne attende patiemment que les corrections qui doivent être apportées aux sentiments et aux pensées, les fausses pensées qu'on avait parlé, que la personne qui fait son bilan et qui prend les moyens pour changer les choses qui a changé dans sa vie au niveau de ses pensées, au niveau de ses comportements. On a vu que il y a quelqu'un qui, justement, que je vois, qui a acheté un livre là, qui aide à faire ça. C'est une brique, là. Mais c'est important de le faire pour la personne qui est dépressive, pour regarder, et c'est des outils qu'on a besoin. C'est pas évident, du jour au lendemain, de dire, ah, oh, ben je fais le bilan des 10 causes qui fait qu'on est dépressif, des patterns de pensée. Si t'as pas si t'as pas un questionnaire, un outil pour t'aider à le faire, tu vas avoir de la misère à le faire. Alors, ces outils-là existent aujourd'hui, ils ont été utilisés à maintes et maintes reprises par ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Alors, quand tu commences ça, il ne faut pas que tu t'attendes, la personne qui est dépressive, il ne faut pas qu'elle s'attende que ça va donner des résultats immédiats. Il faut qu'elle accepte le fait que c'est quelque chose qui va se faire graduellement, lentement. Ça, c'est rare que quelqu'un sorte de la dépression là, du jour au lendemain. C'est fini le lendemain. C'est quelque chose normalement qui s'étale sur des fois plusieurs mois, puis des fois plusieurs années. Alors, la personne qui veut s'en sortir, il faut qu'elle reprenne des habitudes comme elle avait avant. J'espère qu'elle en avait au moins. Comme elle avait en avant, pour lire sa Bible à tous les jours, pour prier tous les jours. Puis, c'est là qu'un aidant peut vraiment contribuer à aider les personnes qui sont là. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à préparer les prochaines leçons qui vont être sur les aidants. Le prochain chapitre, le chapitre 6 là, dans le livre, c'est vraiment qu'est-ce qu'un aidant et de quelle façon il peut contribuer à sortir la personne de la dépression. Et il donne 10 moyens. Si on se posera la question, nommez-moi-en donc un moyen, il y en a 10. À quelque part, c'est que je pense qu'on a besoin de les voir, ces moyens-là, puis on a besoin de dire, ben, c'est pas à moi de faire ça, c'est au pasteur. Facile, ça. Mais à quelque part, des fois, il nous dit des moyens, et par exemple, un, que je me souviens ce matin que j'ai fait, là, formez-vous sur le sujet. Ça, on vient de faire une brève, on va avoir peut-être fait 15-20 leçons, là, puis ça nous donne une idée générale. Mais quelqu'un qui veut vraiment aider quelqu'un dans sa communauté, dans son assemblée, qui vit une dépression, bien, il faut que ses connaissances soient le plus possible avancées pour vraiment aider intelligemment, comme on pourrait dire. Alors, bien entendu, la personne doit reprendre du temps de lecture des Saintes Écritures et du temps de prière. Et si possible, s'il est dans un état capable de revenir au culte, de reprendre aussi le culte. Et je disais, un des moyens ce matin, je pense que ça, les deux leçons se rejoignent. Il disait que dans une église locale, on se devrait de cultiver un esprit de miséricorde, un esprit de qu'on est décidé comme groupe d'aider les gens qui sont dans cette situation-là. À quelque part, c'est pas quelque chose de si naturel que ça. Même si on est des chrétiens, des fois, nous aussi, on continue à vivre avec nos préjugés, on continue à vivre avec nos difficultés. Et parfois, c'est un travail qu'on se doit de faire comme Église, pour que si jamais il y en a des gens dans l'Église, dans notre assemblée qui vit ça, mais qu'on sache comment agir avec le plus d'intelligence possible. Alors, bien entendu, si la personne est capable de recommencer à venir à ses cultes, très important. Même reprendre, c'est sûr qu'au début, la personne ne doit pas être trop fort pour essayer d'évangéliser, là. Mais souvent, c'est en pensant aux autres qu'on se sort de notre prison intérieure, on pourrait dire. Autre chose, cinquième chose que les personnes peuvent faire, c'est de revoir les doctrines qui t'amènent du réconfort. Il y a plusieurs doctrines dans les Écritures qui amènent automatiquement du réconfort. On peut en nommer quelques-unes. La doctrine de la justification. Si tu parles à un chrétien de la doctrine de la justification, tu es en train de lui dire qu'aux yeux de Dieu, Dieu t'a déclaré juste, Dieu a dit que tes péchés passés, présents et à venir sont tous pardonnés. Dieu a dit que Christ a subi le châtiment que tu aurais dû subir à ta place et Christ a mis sur ton compte sa parfaite obéissance à la loi. La justification, c'est une doctrine qui amène du réconfort parce que tu remets les choses en perspective et tu mets les yeux de la personne sur Christ et non pas sur toi. Parce que quand tu es dépressif, tu penses à toi, oh, ben, je ne suis pas digne, je ne fais pas les choses correctement, tu es porté à te condamner. La justification, c'est une doctrine qui console parce que ça ramène tes yeux vers Christ. Ton salut ne dépend pas de toi, ton salut dépend de Christ dans les deux aspects. Quelqu'un a pris sa punition à ta place, quelqu'un a accompli la loi à ta place. Ça, c'est consolant. Une autre doctrine, c'est celle de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui vit une dépression a besoin d'entendre parler. Je disais justement ce matin que une bonne façon pour que la personne déprimée puisse sentir l'amour de Dieu, c'est par les aidants. Si on est des aidants qui aiment vraiment la personne, moi je disais ce matin, je disais, les personnes qui s'en sortent, ils disent souvent, il n'y a rien de plus consolant que de se sentir aimé, malgré que nous, ils nous aiment pareil, même si on est dans cet état-là. Et ça, c'est consolant. Et c'est comme une façon pour le déprimé de voir l'amour de Dieu qui passe à travers des frères ou des sœurs ou des personnes. Et ça les remet en contact avec l'amour de Dieu. Autre, c'est la miséricorde de Dieu. On peut parler de toutes sortes d'exemples de miséricorde que le Seigneur a eu dans les Écritures. On peut parler de la grâce de Dieu. Tu sais, la grâce de Dieu, c'est une faveur. C'est une faveur non méritée. Plus que ça, c'est une faveur déméritée. On méritait exactement l'inverse. Le Seigneur nous a donné ça. On peut aussi parler à ces personnes-là des promesses qui sont dans les Écritures. Les promesses sont riches. Je vous ai parlé d'un livre qui existe avec toutes les promesses de Dieu classifiées par genre. Il promet des choses extraordinaires à ses enfants. Il y a des centaines de versets. Alors, ces personnes-là ont besoin de se faire rappeler que Dieu a fait des promesses, puis qu'ils peuvent s'assurer que Dieu va tenir ses promesses. Comme par exemple, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, marchant non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, versets 38 et 39. Celui-là, c'est vraiment, je pense qu'on pourrait lire ces versets-là et expliquer ces versets-là aux personnes qui souffrent de dépression. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est des versets que si on se donne la peine de les étudier puis de regarder ce que ça veut dire, à quelque part, le Seigneur dit que si tu as vraiment sauvé, il n'y a rien qui peut te séparer de lui. C'est consolant, ça. C'est rassurant. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ça peut arriver que dans tout cela, là, dans tout le moment que tu étais sous dépression, que tu n'as fait des péchés, toutes sortes de péchés, d'avoir négligé les Écritures, d'avoir négligé de prier, d'avoir négligé d'aller au culte et plein d'autres choses. D'avoir, des fois, les personnes déprimées deviennent un peu, du point de vue verbal, ils peuvent devenir violents, des fois. Ils peuvent bousculer autour d'eux. Alors, quelque part, quand on dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il faut rappeler ça aux gens. Parce que des fois, tu peux être sous un très grand poids de culpabilité parce que tu n'as pas été tellement gentil envers ceux qui t'entouraient, qui essayaient de t'aider. Mais si tu rappelles un verset comme cela à la personne, oui, tu as péché, mais confesse-le à Dieu, puis Dieu va te pardonner. C'est ça qui est merveilleux. Et 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10, « L'amour de Dieu envers nous a paru, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. » Les gens pourraient s'asseoir et les copier, ces versets-là. Tu peux les en proposer, ça, je lui ai donné quelques-uns, mais il y en a bien plus que ça, donc il y en a des centaines, des milliers. Alors, quelqu'un pourrait, avec la personne... Quand tu l'écris toi-même, tu participes. Et on dirait que ce que tu écris, tu le comprends mieux que ce qui t'est dit. Parce que tu participes à ce qui est dit. Alors, quelqu'un pourrait copier les versets. Il pourrait s'habituer à les emmener avec lui. Quand tu t'en sors lentement. Là. Alors, des fois, la personne peut avoir tout simplement un petit quelque chose, un petit calepin dans lequel ces choses-là sont écrites, puis des fois, il y a besoin de se réapproprier ces choses-là, ces promesses de Dieu-là, ou ces choses qui nous consolent. Surtout quand les gens se sentent submergés. Parce que des fois, quand tu t'en sors, il doit y avoir des moments où que la tentation de retomber elle doit être là. Et quelqu'un connaît un sentiment de peur ou connaît un sentiment de découragement. C'est là que tu as besoin de réviser cela. Parce que surtout quand tu t'en sors, tu dois être... Je connais pas ça, là, mais je me doute que quelqu'un doit être fragile. Alors, quand quelqu'un est fragile, il a besoin d'être solidifié par la parole de Dieu. Sixième chose, il recommande que lorsqu'une personne qui sort de la dépression prie, qu'elle n'ait pas peur de dire à Dieu ce qu'elle ressent. Des fois, on n'ose même pas le dire à notre entourage, mais à Dieu, tu peux dire tout. Tu dis à Dieu franchement, tu ouvres ton cœur tel que tu lui dis les choses telles que tu les veux. Et il faut que tu sois aussi totalement et absolument honnête ce que tu vis. Tu peux demander aussi au Seigneur de t'aider dans la gestion de tes doutes, dans la gestion de tes peurs, et lui demander de restaurer la joie de ton salut. Parce que normalement, quand on reçoit le salut, surtout les premiers mois, les premières années, et ça devrait être toute la vie, mais il y a des fois, tu sais, on sait, la vie est faite de haut et de bas, et des fois, on traverse des bas. Mais quand on traverse les hauts et qu'on a sorti de la dépression, on voudrait revenir tel qu'on a déjà été dans les hauts de la vie chrétienne. Retrouver sa joie de son salut. Et quelqu'un peut aussi s'habituer à remercier le Seigneur pour son amour, même s'il ne le sent pas émotivement. Parce qu'une personne qui vit, qui est dépressive, elle se sent ordinairement abandonnée de Dieu. Mais nous, les aidants, on se devrait de lui rappeler que même si tu ne sens pas l'amour de Dieu, il t'aime quand même. C'est un peu comme quelqu'un qui vit une dépression. Des fois, il était aidé par toute sa famille, il était aidé par ses amis, il était aidé par plein de monde autour de lui. Mais lui, il sent que tout le monde l'haït. Mais les gens autour de lui, ils ne l'haïssent pas, ils l'aiment. Mais c'est comme, on dirait que tu es enfermé dans ta coquille, puis tu dis « tout le monde m'haït ». Puis même des fois, tu inclus même Dieu là-dedans. Alors, on sait que c'est faux. Une autre habitude pour les personnes qui se mettent à sortir de leur dépression, c'est de prier pour les autres qui souffrent. Parce que tu es rarement tout seul dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton église locale, ou qu'il n'y a pas d'autres personnes qui, des fois, qui sont... Toi, tu es en train de t'en sortir, des fois, mais il y en a un autre dans ton assemblée qui est rentré dedans ou qui est en train de rentrer dedans. Alors, il faut que tu habitues les personnes à prier pour eux, parce qu'eux aussi ont grandement besoin. Alors, ça contribue à tourner tes pensées ailleurs que sur ton nombril. Parce que la dépression, c'est ça l'effet que ça fait, c'est que tu tournes vers toi. Tu t'enfermes dans ta prison intérieure. Et la septième recommandation, c'est de demander aux gens qui sortent de leur dépression de continuer à aller à l'église et de chercher à développer la communion fraternelle. Ce n'est pas en te mettant à part que tu peux grandir. Il faut que tu cherches... Tu viens à l'église, déjà, en venant à l'église, il y en a automatiquement la communion fraternelle, mais des fois, les gens qui sortent de dépression sont un petit peu portés à se tenir à l'écart, ils ne comprendront pas. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut cultiver une atmosphère dans une église où que ces gens-là ne se sentent pas rejetés, ne se sentent pas jugés, ne se sentent pas qu'on les abandonne. Alors, développer de la communion fraternelle, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours des personnes dans une assemblée avec lesquelles on a plus de facilité pour développer de la communion fraternelle qu'avec d'autres. Alors, quand on arrive dans notre assemblée, on sort de notre dépression, il y a toujours des gens avec lesquels on a plus de sympathie de façon naturelle. Bien, c'est avec eux, souvent, qu'il faut commencer à développer davantage encore de communion fraternelle. Cependant, on sait que ces gens-là peuvent nous faire des confidences. On sait comment qu'on est tous portés à trop parler des fois. À quelque part, il faut s'habituer, encore plus comme pasteur, ça s'adresse à moi en particulier, puis ça s'adresse aussi à tout le monde, que quand les gens nous font des confidences, on n'est pas obligé d'aller les dire sur tous les toits. Parce que quand quelqu'un te fait une confidence, puis qu'après il apprend que tu le dis à tout le monde, bien, dis-toi une chose, il t'en fera plus jamais. Ça, c'est une chose, il faut apprendre à se la fermer, comme on dit. Alors, confier à ceux à qui on a confiance dans l'Église et demander à ceux-là, d'une façon particulière, de prier pour vous. Vous remarquez comment souvent les gens vont nous demander de prier pour ci, puis pour ça, puis combien de fois on ne le fait pas. C'est épouvantable. Moi, je trouve ça épouvantable parce que les gens nous disent « Veux-tu prier pour moi pour telle affaire? » On dit « Oui, 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 oui. » Puis bien souvent, on arrive chez nous, puis toute la semaine, on aurait eu maintes et maintes et maintes occasions, beaucoup de chances de le faire, puis on ne l'a pas fait même pas une seule fois. Ça nous parle-tu sur nous, ça, comment on est? Oui, ça nous parle sur nous. Mais il faut demander à Dieu de changer ça en nous. De s'habituer à ce que quand quelqu'un nous demande de prier pour lui, bien qu'on le fasse à tous les jours. Pas juste le faire du bout des lèvres, le faire avec tout notre cœur. Prier pour la personne, c'est intercéder auprès du Tout-Puissant pour qu'il puisse changer quelque chose dans la vie de ces gens-là. Alors, s'habituer à garder les confidences et prier pour ceux avec qui on a de la communion et pour ceux qui souffrent encore. Et huitièmement, se rappeler constamment que Dieu nous aime tel que nous sommes. Quand, avant que tu fasses ta dépression puis que tu étais dans ce qu'on appelle en québécois un high spirituel, Dieu t'aimait. Mais quand tu es dans un down spirituel, il t'aime encore. C'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné. Le Seigneur t'aime tel que tu es et non pas tel que tu devrais être. Parce que s'il nous aimerait jusqu'à on se devrait d'être comme ci, être comme ça, on serait malheureux à l'année parce que souvent on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas qu'on est comme on devrait être. Mais Dieu nous aime tel que, à cause de Christ, à cause que nos péchés sont pardonnés, à cause que Christ a accompli la loi à notre place. Alors, il faut chercher à corriger les fautes spirituelles. On a mentionné aussi que la possibilité que la dépression puisse avoir été le résultat d'un péché ou de certains péchés spécifiques. Si après avoir examiné votre vie de sentiments et votre vie de fausses pensées, vous vous rendez compte que certains péchés ont tendance à revenir et pour lesquels vous ne vous êtes pas sincèrement repenti, il est temps de tomber à genoux et de confesser tes péchés et de demander pardon au Seigneur. Psaume 32, on va lire le psaume 32. Masquille, cantique de David. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera autant qu'on te trouve et quand les grandes eaux déborderaient, seul il n'en sera pas atteint. Tu es ma retraite, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de champs de délivrance. Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai. Mon œil sera sur toi. Ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence dont il faut serrer la bouche avec un mors et un frein de peur qu'il ne s'approche de toi. Beaucoup de douleurs atteindront les méchants, mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et vous égayez, chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Alors, il est possible qu'on sente que la barre soit haute et qu'on ne se sente pas à la hauteur de grimper une si haute montagne après qu'on a été dans un trou comme ça, de revenir comme on était avant. La plus grande terreur est d'essayer de trop en accomplir en même temps. Quand tu essayes de sortir, puis là, tu vois que tu as plein de choses à faire. Prends ton temps, va pas trop vite, vois pas la montagne trop haute, vas-y, petit pas par petit pas. Et ça va. Alors, si quelqu'un essaie de tout changer en même temps, le risque est qu'il se décourage, et que tout cela contribue à vous garder dans la dépression. Demandez l'aide de quelqu'un de confiance et établissez-vous des objectifs réalistes. Et ceci dans un domaine spécifique et dont vous pourrez mesurer les victoires. Tu y vas par petit domaine, avec des objectifs spécifiques, avec l'aide de quelqu'un. Et quand tu vois des résultats, ça t'encourage. Préparez un plan écrit et procédez lentement et une étape à la fois. Ayez des objectifs à court terme, des objectifs à long terme. Faites les ajustements nécessaires à mesure. Et soyez encouragés par tout progrès que vous faites. Donc, si on fait un sommaire, demandez de l'aide et obligez-vous à rendre compte à quelqu'un. Deuxièmement, mettez le focus sur un problème à la fois. Troisièmement, décidez quelle est la meilleure solution. Quatrièmement, écrivez un plan étape par étape. Cinquièmement, établissez-vous des objectifs réalistes à court et à long terme. Sixièmement, procédez à des révisions et à des correctifs si nécessaire. Et septièmement, encouragez-vous par vos victoires et persévérez. Puis les gens qui font ça, ils s'en sortent. Un jour, ils reviennent comme ils étaient avant. Puis c'est juste un mauvais souvenir, mais souvent, c'est les meilleures personnes pour aider quelqu'un d'autre. Par-dessus tout, priez pour l'aide de Dieu et ses bénédictions en tout temps, dans tout ce processus-là. On va terminer par 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation pour que nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que ce soit, au moyen de la consolation par laquelle nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Parce que comme les souffrances du Christ abondent sur nous, de même notre consolation abonde aussi par le moyen du Christ. Alors, 2 Corinthiens parle beaucoup de consolation. Alors, c'est très important qu'on mette tout ça en application. Alors, ça, on a regardé un petit peu aujourd'hui les remèdes. La prochaine leçon, ça va être les aidants, qui ils sont, comment ils peuvent contribuer à aider ceux qui traversent des périodes difficiles comme cela. Alors, on termine là-dessus ce soir.